pas si vous vous souvenez de cet épisode, on va juste regarder cette petite vidéo. Est-ce que... Bon. Enlever le son. Voilà, ça vous parle? Est-ce que ça vous fait penser à un événement particulier? J'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est un violoniste très connu qui s'appelle Mstislav Rostropovitch qui a joué du violoncelle à un moment historique. Et ce moment, ça a été la chute du mur de Berlin. Alors pour nos amis également allemands, je pense que ça parle encore plus. Mais je regardais récemment un reportage concernant cet épisode historique qui est complètement surréaliste, en fait. On voit ce mur ici, c'est 155 kilomètres qui entouraient toute la partie ouest de Berlin. Il y a des murs de 3 mètres 6 de haut, 14 000 gardes, 600 chiens barbelés, 302 miradors. Et beaucoup de gens qui ont laissé leur vie en essayant de passer de la RDA à la RFA. C'est complètement surréaliste. Et puis, je regardais justement cette mission historique, et il parlait de tous ces Allemands d'Allemagne de l'Est qui ont été dans plusieurs semaines à Prague, c'était l'ambassade ouest-allemande, et ils ont vraiment tout fait pour passer à l'ouest. Et ça a été comme une énergie du désespoir pour quitter le pays où ils se sentaient certainement réprimés. Et ça a été un moment historique. Et aujourd'hui, je n'y suis pas encore allé, j'aimerais visiter Berlin, mais pour ceux qui connaissent certainement, aujourd'hui, du mur, il reste une cicatrice dans la rue. Et on voit ici, il y a quand même une réminiscence du passé, juste pour rappeler que le mur a été là et qu'il l'empêchait de passer dans une autre étape. Et ce matin, nous pouvons vraiment bénir le Seigneur. Parce que Paul dira, dans Éphésiens chapitre 2, il dira non seulement à son peuple juif, mais à toutes les nations. Il dira « Maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin ». Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur. Amen. Le mur a été renversé. Et ce mur de la séparation, le mur qui nous séparait de la présence de Dieu. Ce mur aussi qui, finalement, nous séparait entre les nations. Je ne sais pas si vous avez un peu voyagé dans les différentes églises dans le monde. En principe, si vous rencontrez des vrais chrétiens, eh bien, normalement, vous êtes bien accueillis quel que soit le pays où vous êtes. Et ça, c'est vraiment une grâce. Et puis, il y a ce verset qui dit, c'est le titre, enfin, en tout cas, le titre. Plus qu'un titre, c'est le thème, c'est une réalité. Le Seigneur est là, ce matin, il nous prend la main et il nous pose la question, est-ce que tu veux venir à nouveau dans le chemin de ma présence ? Et la bonne nouvelle, c'est que le chemin est ouvert. Et que ça ne dépend plus de Dieu, mais ça va dépendre de nous-mêmes. Et Jésus dira ce verset que beaucoup connaissent très bien, lorsque Thomas, qui est avec lui depuis très longtemps, dit « Mais on n'en sait rien, quoi. Peut-être que ça fait longtemps qu'on est chrétien, et peut-être que ça paraît un peu bizarre de dire « Mais vous me parlez du chemin de la présence de Dieu ?» Après tout, je le connais, mais il y a toujours, 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 tant qu'on sera sur cette terre, jusqu'au moment où on le verra face à face, il y a toujours ce chemin et ce défi de venir plus près de Dieu. Amen. Jésus dira, mais c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est extraordinaire. On sait, on l'a vu il y a 2 semaines, Christian aussi nous a rappelé la semaine dernière aussi l'importance d'avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Vous vous souvenez? Et c'est vrai que c'est pertinent d'en parler, parce qu'une des caractéristiques, finalement, il a bien développé le sujet, ce qui me parle, c'est que quelqu'un qui a un cœur, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui va chercher, qui ne va pas lâcher, et qui va chercher Dieu, qui va chercher l'Éternel. Psaume 34, il est dit, c'est David. David qui a commis un adultère, qui a commis un meurtre, qui est loin d'être parfait. Mais cependant, il a un cœur selon le cœur de Dieu. Et la différence entre Adam ou entre Judas, c'est lorsque ils pêchent, ils vont se cacher. Mais David, il va continuer à chercher l'Éternel. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous et pour moi. Je me dis, mais quelles que soient mes fautes, mes limites, mes échecs, je peux continuer à chercher l'Éternel. Et il dira, j'ai cherché l'Éternel et... Est-ce qu'on peut regarder? Regardez dans votre Bible. C'est vraiment un verset qui m'a vraiment particulièrement parlé. Psaume 34. Psaume 34. Et les versets 2, on va dire 2 à 5. Psaume 34. C'est... C'est lorsque David va, il va échapper belle en présence d'Abimélech et il a failli y passer. Et par la grâce de Dieu, il a la vie sauve. Et au verset 2, il dira « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. » Verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Verset qui m'a percuté. J'ai cherché l'Éternel. Et il n'a pas dit j'ai galéré toute ma vie et je n'ai pas eu de réponse. Il a dit j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une réponse? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une direction? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un éclaircissement, d'une lumière? Est-ce que quelqu'un a besoin d'une porte qui s'ouvre? Vous savez, est-ce que vous avez déjà été dans les labyrinthes à la fête foraine? Vous savez, ces labyrinthes avec les portes de verre, vous avez déjà fait ça. Ou ça peut être également des labyrinthes avec des haies, ça existe aussi. Si vous visitez les châteaux de la Loire, des fois dans les jardins, vous avez ces grands labyrinthes. Imaginons un instant que dans ce labyrinthe, il n'y ait aucune issue. On y entre et on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. C'est terrible, hein? Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu nous dit que Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il a donné sa vie pour nous. La porte est ouverte. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Ceci étant dit, une fois qu'on sait que la porte est ouverte, une fois qu'on sait qu'il y a une possibilité, et c'était intéressant ce matin dans ce que je voyais, c'était vraiment le Seigneur qui nous tendait la main pour qu'on puisse cheminer avec lui. Quel genre de chemin, sur quel genre de chemin Dieu attend que nous marchions? C'est bien beau de dire la porte est ouverte, le chemin est ouvert. Mais quel genre de chemin sommes-nous appelés à marcher? Sur lequel? Quel genre de chemin, à votre avis? Si on faisait une table ronde, ou si vous partagiez avec votre voisin, on ne va pas faire. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Quel est le chemin que Dieu nous appelle, sur lequel Dieu nous appelle à marcher? Quel genre de chemin? Une fois, on a fait un camp itinérant avec des ados. On était 25 ados. On était 3 encadrants. On est parti du viaduc de Vior, je pense que ça parle à personne, mais c'est dans l'Aveyron, et c'est Eiffel qui avait construit ce viaduc. Mais c'est vraiment la campagne, il n'y a personne. On a été, je dirais, largués avec 25 cadeaux, un peu de nourriture, des tentes, et on a été jusqu'à au-delà de Saint-Antonin-Nobleval, je ne sais pas si ça vous parle aussi. Bon, juste pour dire que d'est en ouest, on a fait à peu près 150 km en 15 jours, à pied, en vélo, en canoë. On montait les tentes, on se ravitaillait au fur et à mesure. À l'époque, j'étais un peu plus jeune. Et les ados, donc j'avais 33 ans ou 34 ans, et les ados me disaient, mais t'es vieux, mais ça va. Jusqu'à 35 ans, c'est bon, tu peux y aller. Après, t'es trop vieux. Donc j'ose plus leur demander, j'ose plus leur dire mon âge aujourd'hui. Mais en tout cas, juste pour dire que pour faire ce parcours, il a fallu d'abord le préparer évidemment sur une carte, mais on a marché sur des sentiers qui dataient du Moyen-Âge, et certains même étaient complètement abandonnés. Et il a fallu d'abord faire un repérage, mais avec des ados, c'est intéressant, faut vraiment savoir où on va, il ne faut pas être trop perdu. Mais sur certains sentiers, vous savez, pour tous ceux qui ont fait évidemment de la randonnée, vous avez des signes, des balises. Et si vous ne suivez pas ces balises, rapidement vous pouvez tourner en rond. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, être entré par la porte. On a choisi de suivre Dieu. Et d'un seul coup, on s'est perdu en passage. D'un seul coup, on tourne en rond. On peut être chrétien et être un petit peu perdu dans la nature. Ça nous est aussi déjà arrivé, c'est pas très très agréable d'être avec un groupe et d'être perdu. Alors, je vais vous proposer trois balises qu'il est nécessaire, à mon avis, de suivre sur le chemin, en étant chrétien, sur le chemin de Dieu. Il y en a certainement d'autres. Mais si vous ne trouvez pas ces trois balises, alors ça veut dire que vous êtes un petit peu perdu. Ça veut dire que ce n'est pas forcément exactement le bon chemin. Ça peut y ressembler, mais vous savez, dans les forêts, on peut dévier de quelques mètres ou de quelques. Et puis au final, on arrive à un mauvais endroit. La première balise que je voudrais vous proposer, Dieu nous appelle à marcher sur le chemin de cette proximité avec lui, de cette dépendance avec lui. Ça, c'est la première balise. La deuxième balise, en tant que chrétien, quel que soit notre âge et notre expérience, nous sommes appelés à marcher sur le chemin de la parole de Dieu. On ne peut pas dire à un moment donné, j'ai lu la Bible 10 fois, j'ai fait toutes les études, c'est bon, maintenant je sais. Et la troisième balise, c'est le chemin du témoignage de l'Évangile. Trois balises. On les répète ensemble. La première, c'est le chemin de la proximité avec Dieu, présence de Dieu. La deuxième balise, le chemin de la parole de Dieu. Et la troisième, c'est le chemin du témoignage de l'Évangile. On y va ensemble ? Alors on va marcher ensemble. La première, et c'est le chemin de cette proximité, de cette dépendance avec Dieu. On a Jean chapitre 10, où au verset 7 à 10, vous pouvez, si vous voulez suivre avec votre Bible, c'est Jésus qui dira, au verset 7, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les chrétiens de Bussigny aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Est-ce qu'on capte ça dans la foi ? On le saisit. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est Christ qui le dit. La première balise sur le chemin, lorsque je commence à cheminer, eh bien Dieu me dit qu'il est notre bon berger, qu'il est un Père aimant. Et sur ce chemin-là, nous pouvons avoir accès auprès du Père. Amen. On pourrait s'arrêter et puis prendre ce temps, ouvrir notre cœur et lui dire « Tu es mon Père éternel. Jésus, tu es mon bon berger. Et tu sais ce qu'il convient de mieux pour moi, pour nous. » Et combien de fois on se débat, on doute, le diable nous culpabilise, nous dit « T'as pas fait assez ci, t'as pas fait assez ça, t'en as pas assez fait, tu as fait une erreur, c'est trop tard. » Sur ce chemin sur lequel on commence à marcher, où ça fait peut-être longtemps qu'on marche, nous avons besoin de redire à notre âme et devant l'ennemi que Jésus-Christ est notre sauveur et qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre bon berger. Il est également celui qui nous mène vers notre Père céleste, celui qui nous aime. Il ne nous rate pas, mais parce qu'il nous aime. Il nous encourage parce qu'il nous aime. Et on a cet accès ce matin. Amen. Et vous savez, quand il est dit « en abondance », dans le mot grec, ça veut aussi dire une vie qui est même au-delà de nos espérances. Au-delà. Et quand on lit cela, on se dit évidemment sur ce chemin, des fois, c'est des chemins qui peuvent être rocailleux, ça peut grimper. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... Moi, plus ça va et moins ça va quand je monte, quand j'ai une pente un peu raide en montagne. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais la vie en abondance, au final, c'est que Dieu, finalement... Pour nous, le défi, c'est quoi? C'est de ne pas nous arrêter. C'est de ne pas nous arrêter. Des fois, il y a du vent, il pleut en montagne. Des fois, on commence un peu à galérer. Mais l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter. On peut adapter notre marche, on peut marcher doucement. Je me souviens, en montagne, on était un peu plus jeunes, on allait comme des fous, on marchait vite. Puis il y avait ce couple d'un certain âge, avec leurs chaussures, qui marchait à petits pas. Nous, on rigolait, donc on marchait vite. Puis d'un seul coup, on était très fatigués, on s'arrêtait. Puis eux, tranquillement, ils venaient, on les voyait nous rejoindre, ils nous dépassaient légèrement. Alors nous, on repartait, on était très loin encore. Et puis, ils continuaient à marcher tranquillement. Il y avait 1000 mètres de dénivelé, ils ont continué. Et puis finalement, ils sont quasiment arrivés en même temps que nous. Voilà. Et là, je me suis dit, waouh, finalement, c'est intéressant dans la vie chrétienne. Ça ne sert à rien de courir comme des fous pour après s'arrêter. L'objectif, c'est de... Peut-être des fois, il y a des moments où on va plus vite, mais l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter. C'est de ne pas s'arrêter. C'est de ne pas s'arrêter. Et on va le dire aussi à l'ennemi de notre âme. C'est pas parce qu'on a des galères, c'est pas parce qu'on s'est trompé, c'est pas parce que c'est difficile qu'on va lâcher. On va pas lâcher avec la grâce de Dieu, avec le secours de l'Éternel. Parce que quand je marche, on a besoin de se le rappeler, il est à côté de nous, il est là. Et il nous tient la main quand on en a besoin. Amen. Amen. Alors si sur ce chemin de randonnée chrétienne, ou chrétien, sur ce chemin chrétien de randonnée, vous n'avez plus cette balise, première balise, que Jésus-Christ est mon berger et que l'Éternel est mon Père, et qui m'aime, alors, il faut juste reprendre la carte de la parole de Dieu et puis de se repositionner. La deuxième balise, vous en souvenez maintenant, hein, première balise, c'est cette proximité, dépendance avec Dieu. La deuxième, c'est la balise de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Et dans cette balise-là, pourquoi c'est important de toujours l'avoir en vue, à votre avis? La première, c'est parce que la parole de Dieu nous communique la vie. Christ lui-même, dans Matthieu 4, verset 4, lorsqu'il est tenté, il a faim, le diable est là, il veut l'empêcher d'exercer ou d'aller dans cette œuvre de rédemption. Selon la volonté du Père. Et le diable va venir, et il va venir dans un moment de faiblesse. Christ est Dieu, mais il est véritablement homme. Et dans un moment de faiblesse, voilà le diable qui lui dit, et qui va essayer de le dévier de ce chemin. Il va essayer de le faire échouer dans ce chemin, non seulement d'être en phase avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu, mais d'accomplir ce que Dieu, le Père, demande. Et Jésus dira, l'homme ne vivra, et la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Qui fait référence à Deutéronome 8, lorsque le peuple est dans le désert, et à un moment donné, ils font le point, et Dieu leur dira, mais dans ce désert, c'est vrai que vous auriez pu aller beaucoup plus vite, mais vous avez emprunté des chemins où vous avez été humiliés, vous avez manqué d'eau, où ça a été difficile. Dieu le reconnaît. Il reconnaît que son peuple est passé par un moment difficile. Comme Dieu sait exactement les moments difficiles que nous vivons. Ce n'est pas un Dieu qui est amnésique, ce n'est pas un Dieu qui n'est pas réaliste. Il sait exactement les moments difficiles que nous vivons. Et on pourrait se dire, dans notre conception du 21e siècle occidental, mais si Dieu nous aime, pourquoi il permet ça? Vous savez, quand on a un enfant et qu'on lui facilite la tâche, qu'on lui achète tout, qu'on ne le reprend jamais, qu'on lui donne tout ce qu'il faut, il va arriver à 18 ans, il aura une maturité d'un enfant de 5 ans. Dieu nous aime assez pour nous faire ou pour permettre que nous passions par des moments difficiles. Il nous aime assez pour nous permettre de vivre des moments difficiles. Pourquoi ? Parce que d'une part, il sait que de toute façon, il est là. Il est là. Au sein de la tempête, il est là. Mais dans Deutéronome au chapitre 8, si on relit l'histoire du peuple d'Israël, eh bien Dieu dira, c'est parce que j'ai voulu que tu apprennes, peuple de Dieu, que l'homme et la femme ne vivront pas seulement de pain ou de la manne, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui non seulement goûte à la présence de Dieu, mais également reçoit, est éclairé par la parole de Dieu, marche sur la parole de Dieu, à ce moment-là, sa destinée change. Sa trajectoire de vie va changer. Combien de fois j'aurais pu me perdre, combien de fois j'aurais pu perdre du temps, j'en ai des fois un peu perdu. Mais quand Dieu vient et qu'il parle au travers de sa parole écrite, éclairé par son Saint-Esprit, à ce moment-là, si je percute sur la parole, ma destinée change, ma trajectoire de vie change. Dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le mariage, je me souviens quand le Seigneur m'avait... Bon, vous savez, quand on est jeune, on a 10 000 pensées à la minute, 10 000 sentiments quand on est très très jeune. Et puis on a envie quand même, quand on se convertit, de se marier avec la bonne personne, en principe. Et j'ai demandé au Seigneur vraiment de m'aider. Et une fois qu'il a vraiment parlé à mon cœur, il a confirmé, à ce moment-là, je me dis, mais heureusement que j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Et même dans la façon aussi de faire. On était dans la même université. Moi, j'avais envie de l'avoir tout le temps. Puis le Seigneur m'a parlé au travers de l'épisode d'Isaac en disant, OK, calme le jeu, tu n'es pas encore marié. En tout cas, c'est mon histoire. Hein, ça, je ne dis pas que c'est... Mais en fait, le Seigneur m'a parlé clairement, non seulement sur la personne, mais aussi sur la façon de faire. Et je me souviens que à chaque fois que j'obéissais à ce que le Seigneur me donnait, me disait, j'avais la tête à l'endroit. Mais dès que je dis, bon, c'est pas si grave, on va essayer de se voir quand même. Et dès que je passais outre, j'avais la tête à l'envers. Et je me dis, heureusement, que non seulement le Seigneur a parlé, mais que finalement j'ai marché sur ce qu'il m'a dit. Et au final, non seulement ça a un impact dans un court terme, mais également sur un moyen et un long terme. Parce qu'aujourd'hui, merci Seigneur que je me sois marié avec Sabine. C'est une très très bonne idée. Amen. Vous avez vu, elle est habillée en couleur et moi je suis en noir et blanc. Vous avez vu la complémentarité. Et puis, la parole de Dieu non seulement nous communique la vie, Mais également, elle nous rappelle l'alliance de Dieu à notre égard. Néhémie 8, dans le livre qui, à l'époque, n'était qu'un seul livre, Néhémie et Esdras, à un moment donné, vous savez, le peuple d'Israël était en captivité en Babylone. Et quand ils reviennent de la captivité, voilà qu'Esdras va enseigner à nouveau le peuple et la Bible nous dit qu'il va ouvrir la parole. Et à l'époque, il ouvre la parole, il va lire la parole pour rappeler la loi de Moïse et de rappeler les fêtes. Et à cette époque-là, il est dit qu'ils vont commencer par prier, ils vont se prosterner. C'est une belle attitude hein, quand on ouvre la parole de Dieu. C'est très très bien de préparer son cœur. Et il est dit que Esdras, les Lévites, vont lire la parole, vous savez quoi ? De l'aube jusqu'à midi. Et tout le peuple était debout. Donc je ne sais pas combien d'heures ça faisait. Des fois, nous, on se plaint avec 30-40 minutes de message. Mais ils se sont mis debout, ils ont écouté la parole. Alors, ils ne parlaient plus hébreu, il a fallu traduire en araméen. Et en entendant la parole de Dieu, l'impact sur ce peuple qui était en captivité, ils ont réalisé, ils sont revenus à la parole de Dieu. Ils sont revenus au cœur de leur appel, d'être proches de Dieu et d'être des témoins. Et quand Esdras a lu la parole, vous relirez ça dans Néhémie chapitre 8, il est dit que le peuple a commencé à pleurer. Ils ont commencé à avoir comme un esprit de repentance. Ils ont pleuré à la lecture de la parole de Dieu parce qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient éloignés de cette parole. Ils étaient loin de la parole. Ils étaient sur ce sentier où il manquait cette balise de la parole de Dieu. Et quand ils l'ont lu, ils ont pleuré. Il y a eu un temps de repentance. Et les scribes, en tout cas Esdras et les Lévites, il est dit qu'ils vont expliquer la loi. Ils vont expliquer la parole de Dieu. Autrement dit, je bénis Dieu également, non seulement pour sa parole, mais je bénis Dieu aussi pour toutes celles et ceux qui expliquent la parole. Ça peut être dans un groupe de maison, ça peut être auprès des enfants, des adolescents, ça peut être à différents niveaux. Et je bénis, j'appelle la grâce et la bénédiction de Dieu sur toutes celles et ceux qui partagent la parole, qui l'expliquent, qui encouragent à la suivre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et contre toute attente, les Lévites ont dit, arrêtez de pleurer maintenant, mais réjouissez-vous, parce que ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Même si vous avez été déporté, même s'il y a eu l'esclavage, même si vous avez vécu tout cela, aujourd'hui vous pouvez vous lever sur la parole. Parce que les promesses de Dieu ne se sont pas arrêtées. Amen. Et enfin, concernant toujours, on est dans quelle balise ? On a vu quoi ? Le chemin de la proximité avec Dieu, le bon berger. Deuxième, c'est quoi ? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu communique la vie. Elle nous rappelle l'engagement que Dieu a à notre égard. C'est ça qui s'est passé lorsqu'ils ont relu la parole de Dieu. C'était un renouvellement de l'alliance. Autrement dit, Dieu est en train de dire, même si vous avez été infidèle, il dira à son peuple, moi je me suis engagé et je ne suis pas un homme pour mentir, je suis fidèle. Il s'engage, Dieu est un Dieu qui s'engage. Et lorsque nous répondons à cet engagement, c'est ce que le sens de la Sainte Cène, c'est la nouvelle alliance et Dieu nous rappelle qu'il s'est engagé à notre égard. Il a donné sa vie, mais franchement, moi j'ai toujours un mystère. Il est venu sur la terre, il s'est humilié, Christ. Il a donné sa vie, on l'a maltraité. Il a été il s'est fait homme, mais il s'est humilié jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Un engagement plus que ça, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Et c'est facile de s'engager pour un Dieu qui nous aime. C'est facile de s'engager pour un Dieu qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et puis la parole de Dieu, c'est très intéressant, parce que La parole de Dieu éclaire notre cœur par le Saint-Esprit, afin quoi ? Que notre trajectoire de vie change. Des fois, on peut se dire, oui, on sait qu'il faut lire la parole. Oui, on sait qu'on a besoin que la parole de Dieu parle à notre cœur. Mais d'abord, comment on fait ? Moi, je ne l'entends pas. Et quand je lis la parole de Dieu, ben, je ne la comprends pas toujours. Ou si je la comprends, je ne la comprends pas très bien. Toi, tu es pasteur, c'est facile, tu es un professionnel. Mais moi, c'est compliqué. Alors, il faut revenir à la parole et se souvenir que dans Actes 16, lorsque c'est Paul et Silas qui sont à Philippe, ils arrivent en Europe, magnifique. Et puis, ils vont vers ce cours d'eau, ils vont chercher des Juifs qui sont ou des personnes qui soient prêtes à entendre l'Évangile. Et ils arrivent dans Actes 16, ils arrivent et il y a cette dame qui s'appelle Lydie. Et la Bible nous dit qu'elle adore Dieu. Mais évidemment, elle n'a pas encore l'Évangile. Hein. Mais elle adore Dieu dans le sens où elle a envie d'en savoir plus. Elle a envie d'honorer Dieu. Et regardez dans Actes 16, là aussi, si vous avez votre Bible. Au verset 14, il y avait parmi elles, donc Actes 16, verset 14, il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. C'est intéressant, hein ? Elle adore Dieu, mais elle n'a pas encore la connaissance de Christ. Écoutez bien, parce que c'est ce qu'elle faisait également. Elle écoutait, et le Seigneur ouvrit son cœur. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça. Ah, franchement, j'aime ça. Elle écoute, et voilà que Dieu, le Saint-Esprit, ouvre le cœur. Christian nous a parlé, hein, vous souvenez de ce qu'est le cœur. De sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Waouh ! Ça veut dire que dans cette recherche, dans cette démarche, à un moment donné, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et nous accorde cette action, cette direction de dire, mais attendez, il y a quelque chose. Elle dit, mais il y a quelque chose, je vais écouter attentivement, je ne sais pas encore tout ce qui va se passer. Ce n'est pas simplement d'être attentif à la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement de dire, le Saint-Esprit va d'un seul coup me parler, va agir dans ma vie. Il y a une action de Dieu dans notre vie. Amen. Moi, je me souviens de l'époque où je ne comprenais rien à la parole. J'étais chrétien, je ne comprenais pas. Et le Saint-Esprit a vraiment fait un miracle. Je ne comprends pas encore toujours tout, mais en tout cas, ça va mieux. Et là, voilà que Lydie, elle est attentive à quoi ? Parce que Dieu a discerné dans le cœur de Lydie cette recherche, cette soif. Dieu sait qu'elle a besoin de reconnaître Christ comme son sauveur, parce que c'est le seul chemin. Vous imaginez cette femme, il n'y a pas Internet, hein, il n'y a pas le câble, il n'y a pas la télé, c'est la première fois qu'elle entend le message. Et elle reste attentive. Et elle va entendre cette parole de vie. L'impact dans sa vie, c'est quoi ? C'est l'engagement par les eaux du baptême. C'est l'engagement. Elle va s'engager. Extraordinaire, hein ? Il y a d'autres exemples dans la parole. Les deux disciples d'Emmaüs. Christ est ressuscité, Luc 24. Ils sont dans la présence de Jésus et d'une manière très bizarre, ils ne vont pas le reconnaître. Comment ça peut être ? La prière de Laurent tout à l'heure. On peut être ici, dans ce lieu, et on peut dire, mais Dieu est là par son Saint-Esprit, et en même temps on peut se dire, mais vous êtes sûr, quoi ? Vous êtes sûr ? C'est pas de l'émotion, c'est pas, vous faites pas un peu de folklore, vous dites pas ça par habitude. Mais vous savez que ces deux disciples d'Emmaüs, c'est pas des gens étrangers, c'est pas des gens qui étaient rebelles à Dieu. Ils sont dans sa présence et ils ne le reconnaissent pas. Combien de fois je suis soit dans une réunion, mais soit dans la vie de tous les jours. Dieu est là et je ne savais pas qu'il était là. je ne le reconnais pas. Et il est dit qu'au moment où ils vont prendre le pain, au moment où ils vont prier la bénédiction, au moment où ils vont partager ce pain, et c'est Jésus qui va leur donner, au verset 31 de Luc 24, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Ça encore, c'est extraordinaire, non ? C'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut ne pas voir, évidemment, mais d'un seul coup, l'Esprit de Dieu vient et il ouvre notre compréhension. Cette compréhension spirituelle de l'invisible que l'on ne peut pas développer humainement. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Ils sont là et ils prennent ce pain, ils mangent, ils ont ce temps de communion avec cette personne qu'ils ne reconnaissent pas. Et voilà l'action de... Est-ce qu'on peut prier pour ça ? Prier pour que le Saint-Esprit nous donne cette attention de la parole de Dieu. Qu'il nous donne ce zèle de pouvoir relire la parole de Dieu avec une attitude de cœur ouverte. Et de dire, Seigneur, surtout, surtout, c'était intéressant, c'était la prière de ce matin, surtout je ne veux pas ne pas discerner quand tu es là. Bien sûr que Dieu est partout, mais il y a des contacts particuliers, il y a des rendez-vous particuliers. Et c'est Dieu qui ouvre. De la même manière que lorsque Jésus, quelques versets plus tard, va rencontrer les 11, et il est dit qu'il va les enseigner de tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il voit Jésus ressuscité. Ils l'ont entendu pendant 3 ans et demi. Ils ont vu la croix. Ils sont avec lui depuis longtemps. Et voilà qu'il est dit qu'il va leur donner cette capacité de comprendre l'Écriture. Tout ce qui concernait Jésus dans l'Ancienne Alliance. Bon, s'il a fait ça avec ceux qui étaient proches pendant 3 ans et demi, on peut se permettre, je crois, de demander au Seigneur, ouvre ma compréhension, ouvre ma compréhension. Touche ma volonté, touche mon être intérieur pour que je ne te lâche pas et que je continue sur ce chemin de quoi ? De la proximité, une barre. La deuxième, la parole de Dieu. Mais s'il en manque une, déjà c'est bien. Hein ? Mais je nous encourage à marcher sur ce chemin du témoignage de l'Évangile. Ça veut dire que si on ne cherche que la proximité avec Dieu, que de se faire du bien, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas assez. Si on laisse la parole de Dieu, on prend le risque de se dévier de la vérité. Et quand je parle parole de Dieu, c'est bien sûr la parole écrite et cette compréhension par le Saint-Esprit. Mais toujours comme référence à la parole écrite. Et le troisième, c'est de dire, mais je veux marcher sur ce chemin du témoignage. Et ça, ce n'est pas toujours gagné, hein, mais c'est notre appel. Vous savez que Pierre, lorsqu'il reçoit cette... Je vais vous donner les versets quand même. Hein, c'est dans Actes 10, au verset 11, c'est Pierre avec Corneille et sa famille. Vous savez que le ciel ouvert a permis à Pierre de recevoir cette compréhension de son mandat de témoin, pas seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations. Pierre, encore une fois, qui est celui qui vraiment a suivi Christ, il est revenu, il a vraiment, on pourrait dire, voilà, c'est Pierre, hein, Pierre qui a prêché à la Pentecôte, etc. Il a eu besoin que le ciel s'ouvre et qu'il ait cette vision de cette nappe et que Dieu lui dise, en substance, ne considère pas impur ce que je trouve moi pur, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi en français courant ? Ça veut dire que mon salut est pour toutes les nations, que tu es appelé à être un témoin et que l'Église a besoin et est appelée à être un témoin. Et pour lui, c'est un choc. Mais la révélation, le ciel ouvert va l'amener à réaliser, à l'éclairer sur son mandat de témoin. Dans Actes 14, Paul et Barnabas qui sont à Antioche, ils vont avoir un voyage missionnaire, c'est le premier, et quand ils reviennent, dans Actes 14, 27, ils vont expliquer à l'Église, ils vont raconter ce que Dieu avait fait avec eux. Il va exposer en particulier comment Dieu avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Et pour l'Église de Jérusalem, ils avaient besoin aussi d'avoir cette révélation que le salut était ouvert, acte 14. Le ciel ouvert nous amène aussi à chercher des opportunités de témoignage. On se souvient de Luc 5, 19, où à un moment donné, ces quatre gaillards amènent cet homme infirme et l'amènent devant Jésus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que dans leur cœur, c'était clair que ce chemin du témoignage, ce n'était pas une option, mais c'était quelque chose d'important. C'était extrêmement important. Et puis, pour finir avec cela, et on va prier, dans ce chemin du témoignage, quelquefois, le ciel ouvert qui nous éclaire sur ce mandat peut provoquer des fermetures de portes. Je m'explique. À Jérusalem, vous savez, hein, quand les apôtres vont témoigner, à un moment donné, il y a la jalousie des Sadducéens et ils vont se retrouver en prison. Ils se retrouvent en prison. Parce qu'ils ont le ciel ouvert et ils savent leur mandat, ils vont l'exercer. D'un seul coup, ils sont en prison. Les portes se ferment. Et quelquefois, on peut être aussi dans cette situation. On sait intellectuellement que nous sommes appelés à être des témoins, mais des fois, les portes se sont fermées, soit par crainte, soit parce qu'on dit, bon, on a essayé, ça ne marche pas. Je ne suis pas évangéliste. Non, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, ce n'est pas trop mon truc de témoigner. Je veux laisser tranquille les gens. Je ne veux pas les embêter. Je veux vraiment les laisser aller en enfer tranquillement. Non, je ne veux pas les embêter. Franchement, les portes peuvent être fermées. Mais là, encore une fois, dans Acte 5, c'est carrément un ange qui vient et qui ouvre les portes. Autrement dit, c'est une action surnaturelle qui va permettre aux disciples, aux apôtres, à l'Église de Christ de continuer. Dieu est un Dieu des miracles. Et dans une autre circonstance, on a Philippe dans Acte 16. Vous savez, quand ils ont chassé l'esprit de divination dans l'esclave qui procurait des grands revenus, ici, il y a une opposition démoniaque. On peut avoir des oppositions liées à la jalousie des hommes, mais on peut aussi avoir évidemment des oppositions démoniaques. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont pris autorité sur cet esprit, elle a été libérée, ils prêchent l'évangile et ils se retrouvent en prison. Et quand ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lamentent, ils disent « Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, des fois, on ne comprend pas, hein, on sait que c'est compliqué des fois. Mais dans Acte 16, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ne pas s'arrêter sur le chemin de l'Éternel. Ils ne vont pas s'arrêter parce que les portes sont fermées. Ils ne vont pas se dire, mais voilà, c'est trop compliqué. Ils ne vont pas s'arrêter. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien. Ils vont prier, ils vont louer, ils vont célébrer au sein de cette prison. Et au moment où ils sont dans cette attitude-là, les portes s'ouvrent. Et ils vont pouvoir continuer. Et je suis même persuadé qu'ils étaient dans une telle attitude que même s'ils avaient été exécutés, jusqu'au bout, ils auraient témoigné. Quel exemple, hein ? Ça vous encourage ? Amen. Ce qui va vous encourager, c'est que j'arrive à la fin. Et je nous invite, on va fermer nos yeux. Et on va simplement continuer à se tenir devant le Seigneur. Et on va juste peut-être réfléchir au niveau de la parole de Dieu. Bien sûr que je dirais il y a d'autres jalons, mais est-ce que sur le chemin sur lequel je me suis engagé, d'abord est-ce que je continue de marcher? Même si c'est doucement, mais est-ce que je suis toujours en mouvement? Dans cette proximité avec Dieu, dans ce renouvellement concret, tangible, que Jésus, ce n'est pas seulement mon sauveur, mon Seigneur, mais qu'il est mon bon berger. Et puis, concernant la parole, parole de Dieu, parole de vie, parole qui communique la foi, ce jalon de la parole de Dieu, dans un monde où il y a tellement de fausses des hérésies, des erreurs. Peuple de Dieu qui est appelé à revenir à la parole de Dieu dans un esprit d'adoration et d'ouverture à l'action du Saint-Esprit. Et puis, y a-t-il encore ce repère du chemin du témoignage ? Quand mes voisins, quand ma famille, quand mes collègues de travail, université, école, me voient, est-ce que je leur donne envie de marcher avec Dieu ? Ou est-ce que je les décourage de par ma vie ? Alors, j'ai juste besoin, ce matin, de prendre cette décision, de continuer à marcher, et puis d'avoir ces regards fixés vers Jésus, et lui dire, Seigneur, je veux continuer non seulement à marcher, mais à marcher avec ces trois jalons. Pas seulement un, pas seulement deux, mais les trois. Amen. Prenons ce temps. On peut prier, on peut ouvrir notre cœur. Je vais laisser la place à Christian.